L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on plonge, on s'immerge. Pas loin, on va dans la rade de Brest, sur le fond, c'est là que se trouve le merle, M-A-E-R-L. Alors c'est un mot breton mais qui vient de l'ancien français marle, une variante de marne. Les marnes sont des boues argileuses et calcaires. Le merle n'est pas vraiment boueux mais il est calcaire. On vous en a déjà parlé du merle, mais cette fois vous allez vraiment l'explorer en profondeur grâce à notre invité, biologiste marin. Il a consacré sa thèse au merle de la rade de Brest. Aujourd'hui il travaille pour l'UBO et l'IUEM, Institut Universitaire Européen de la Mer. Il observe toujours le merle depuis 30 ans, voire plus. Bonjour Jacques Gral.
Bonjour.
C'est 40 ans même, c'est ça?
Non, je pense que les premiers...
Vous n'avez pas compté?
Non, ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans,
plus ouais. De 30 ans en tout cas. Alors, redites-nous ce qu'est le merle.
Alors, le merle, c'est une algue calcaire, hein, donc une algue qui accumule du carbonate de calcium dans ses tissus, ce qui fait qu'elle est une algue dure. Et elle a la particularité de vivre librement sur le fond.
Elle n'a pas de racines, quoi, c'est ça?
Elle n'a pas de racines, elle n'est pas collée à des cailloux comme la plupart des algues. Elle est un peu comme... les algues vertes, hein, mais à la différence qu'elle n'a pas de problème de trophisation. Et elle va s'accumuler localement en fonction des courants dans les écosystèmes côtiers où il y a encore de la lumière.
Et c'est à grande profondeur ou il y a une profondeur standard idéale?
Alors il y a une profondeur idéale pour la plante qui a besoin de lumière. Donc c'est une des dernières algues à pousser le plus profond, enfin là où il y a le moins de lumière. Donc en rade de Brest, elle peut se développer pratiquement à basse mer et on peut en voir par exemple pas très loin d'ici sur les grèves du Rose à Logona d'Aulas. Et là, ceux qui veulent voir du merle en vrai peuvent aller là-bas. Par contre, quand l'eau est plus claire, elle peut en Bretagne pousser jusqu'à 30 mètres de fond, voire plus. Et puis ailleurs dans le monde, elle peut pousser jusqu'à plus de 100 mètres de fond.
Et elle a un nom savant, cette algue? Enfin, c'est une algue en particulier, je suppose.
Alors en Bretagne, ça bouge un peu en ce moment. Il y a essentiellement trois espèces, on va dire. Il y en a une qui s'appelle Lithothalmium corallioides.
Il y a le mot corail dedans.
Ouais, exactement, ouais. Qui a été décrite de la rade de Brest par des célèbres botanistes qui étaient algologues, qui s'appellent les frères Croix, qui étaient des pharmaciens brestois. Donc celle-là est décrite de la rade de Brest. Et puis il y a une autre qui s'appelle Fimatolithum calcareum, qui est un peu plus théoriquement à l'extérieur, enfin dans les endroits plus battus, comme par exemple les glénans. Et puis il y a une troisième espèce qui, elle, est extrêmement rare, puisqu'on n'en trouve que dans deux endroits au monde. Ici, donc, du côté du fond de la rade de Brest, entre toujours les grèves du Rose, hein, et puis le côté... autour du Loc, à Landévennec, jusqu'à Glumergat, dans ces coins-là. Et celle-là s'appelle Lithophyllum fasciculatum. Ouais. Enfin, pour le moment, on essaie de l'appeler comme ça. On ne sait pas très très bien identifier sa taxonomie, c'est-à-dire son identité. Pour le moment,
elle est
questionnée. Ouais. À quelle espèce elle appartient?
Ah ouais. Parce qu'on l'a découvert très récemment.
On s'y est intéressé assez récemment. Et puis, c'est pas très clair.
Et on sait pas. En fait, si elle est présente que dans deux endroits au monde, ça, on en est sûr. On
a peut-être pas cette forme-là, en tout cas. Voilà. Ouais. Il se pourrait que ça soit une forme d'une espèce qui est assez commune, qui vit dans les flaques, un peu plus haut, qui s'appelle Lithophyllum.
C'est pas grave.
C'est pas grave. Du coup, cette forme libre qui vit sur le fond et qui roule et qui est associée à une biodiversité élevée, et cette forme-là n'existe qu'ici et en baie de Galway.
Et comment ça fonctionne? Enfin, je veux dire, quand la plante sort, enfin, quand la plante, je veux dire, quand l'algue naît, elle est tout de suite enrobée de calcaire? Enfin, comment ça fonctionne?
Alors, c'est très compliqué. Alors,
les
cycles des algues rouges, c'est assez compliqué. En gros, elle va naître sur un caillou, et elle va se mettre à pousser. Et elle va développer des branches tout de suite. Et puis, essentiellement, en rade de Brest, mais même ailleurs aussi en Bretagne, pour l'essentiel, c'est de la. Une reproduction végétative qui se passe, c'est-à-dire par bouturage. L'algue va casser, puis va continuer à pousser. En fait, au fur et à mesure de sa vie, elle va se casser et continuer à pousser.
Voilà. Et on sait quel avantage ça lui a procuré dans l'évolution de produire comme ça du calcaire.
Alors, je ne lui connais aucun prédateur, sauf peut-être qui une petite gastéropode, une petite bigorneau, qui arrive à dissoudre ce calcaire-là et à se nourrir de la plante. Sinon, peut-être qu'il y a un oursin qui s'en nourrit aussi, mais c'est pas très clair.
Et puis il y a des humains qui l'ont beaucoup exploité. Enfin, depuis quand est-ce qu'on exploite le merle et pourquoi
Alors ça aussi, en ce moment il y a une thèse qui a lieu à l'UBO là, de Lucas Beausebœuf.
D'histoire,
qui s'intéresse énormément au merle, hein, et puis à son cheminement à travers la Bretagne via l'Aune, etc. Comment on a amendé les terres acides du centre-Bretagne à partir de ce calcaire-là, à partir du merle donc. Donc là, l'exploitation commence vraiment au 18e, 19e. Mais il y a l'idée quand même dans Pline l'Ancien, donc là on se retrouve dans l'Antiquité, qui fait un voyage et qui vient jusqu'ici, hein, et qui dit que sur les terres d'Armorique, je crois, il me semble, il y a les gens qui utilisent des amendements pour leur terre.
Donc c'était agricole, l'usage était agricole.
Il appelle ça marga, hein. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc ça peut être du sable ou quoi, mais il y a peut-être l'idée que c'était déjà exploité largement avant. Après, j'ai trouvé d'autres références d'Angleterre, hein, qui c'est du début du 18e, quoi.
Voilà. Et c'était toujours pour l'agriculture, il n'y avait pas d'autres usages éventuels
À l'époque, c'était que pour l'agriculture.
Et maintenant, il y en aurait d'autres, des usages
Il y en a eu d'autres, il y a du traitement d'eau, beaucoup, donc de reminéralisation de l'eau dans des petites unités de traitement, dans des petites communes où on faisait du traitement de l'eau sur place, et pour reminéraliser cette eau-là, on l'a passée sur du merle. Et ce qui permettait, comme c'est une algue qui a un rapport volume-surface qui est énorme, ça permettait de rapidement reminéraliser cette eau-là.
Et donc en France, on peut l'exploiter ou pas? Enfin, est-ce qu'on a
aujourd'hui, dans les faits, c'est très compliqué. Je pense que ça n'est plus possible. Par contre, ça a été exploité. Je pense que c'est le pays du monde où ça a été le plus exploité.
Et alors, en rade de Brest, donc, vous l'avez dit, il y a une espèce particulière. Est-ce qu'il y a d'autres particularités du merle de la rade de Brest?
Alors, le merle de la rade de Brest a d'autres particularités. C'est le plus grand banc français aujourd'hui. Et il peut représenter... pouvait représenter jusqu'à 30, entre 20 et 30 km carrés, alors ça dépend de comment on le considère. Et puis ça dépend aussi un peu de comme il se promène en fonction des courants et en fonction du vent. Il peut être plus ou moins important. Donc voilà, c'est le plus grand banc français. Ça a longtemps été aussi le plus grand banc européen, mais aujourd'hui, que les Norvégiens commencent à s'intéresser au merle, on découvre que c'est peut-être la Norvège qui détient le record. Au-delà, quand on regarde un peu la biodiversité associée au merle, la biodiversité associée au merle de la rade de Brest est aujourd'hui maximale en Bretagne, en France, et probablement à l'échelle européenne, on n'a pas encore trouvé quelque chose qui soit aussi riche que ça. Mais en même temps, vu qu'on s'y est beaucoup intéressé ici en rade de Brest, il y a un petit biais probablement.
C'est ça, on sait.
Voilà, on sait.
Comment ça se présente un banc de merle? Enfin, déjà, quelle épaisseur ça peut avoir? Et puis, est-ce qu'il y a des recoins? Enfin, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous voyez?
D'un point de vue, quand on s'approche de là, on découvre un fond qui est rose, hein, ce qui est pas anodin, et rose sur des centaines d'hectares. Et puis, si on s'approche un peu du fond, on découvre effectivement beaucoup d'anfractuosité, hein, comme ça ressemble un peu à un récif corallien. Donc il y a beaucoup de branches, et puis entre ces branches-là, il y a des trous qui sont propices à la vie, à des espèces qui vont vivre à l'abri de leurs prédateurs, en ayant tout en ayant accès à de l'eau pour pouvoir respirer, et puis à leurs ressources alimentaires.
Donc quoi, voilà. Des poissons, qu'est-ce qu'il y a par exemple,
des petits poissons, des stades juvéniles de poissons, mais il y a aussi des stades d'invertébrés petits. Moi, en l'occurrence, les plus petites coquilles Saint-Jacques sauvages que j'ai jamais vues, je les ai toujours trouvées dans le merle. Il y a aussi des palourdes, il y a des petits crustacés, il y a un peu de tout.
Et des plantes éventuellement
Il y a des plantes aussi, ouais, on s'y est intéressé récemment. Moi, je ne suis pas spécialiste des plantes et des macro-algues, oui. Enfin des algues quoi, marines, d'autres algues marines. Alors là, je pense qu'en rade de Brest, on doit être à plus de 150 espèces différentes d'algues marines, dont certaines sont quasiment uniques à cet habitat.
Et c'est épais, ça peut être.
Alors,
épais,
hein, au fur et à mesure qu'il pousse, le merle, lui, il a besoin de lumière, mais il peut s'accumuler sur des mètres et des mètres. Et du côté des Glénans, on en a 16 mètres d'accumulation.
Oui, le merle des Glénans qui a été connu aussi.
Ouais, voilà. En rade de Brest, on est plutôt sur des épaisseurs de merle entre 3 et 5 mètres aujourd'hui.
Et quand on l'exploitait, comment on faisait concrètement?
Ça dépend à quelle époque.
Mettons jusqu'à récemment, en fait.
Alors, jusqu'à récemment, c'était de l'exploitation industrielle. Donc, c'était un bateau avec une élingue sur le fond, c'est-à-dire un grand aspirateur qui faisait remonter par aspiration le merle dans sa cuve. Et là, le merle était lavé. Donc, c'était ça qui posait pas mal de problèmes aussi parce qu'on rejetait pas mal de vases autour du bateau et pour ne conserver que le merle. Avant ça, il était exploité plutôt avec des dragues assez artisanales.
Parce qu'il peut être vaseux.
Il a été exploité, au crapaud, hein, donc avec une grande benne aussi pendant longtemps.
Ah oui.
Ouais, du côté de l'Iroise, quoi, du côté de Molène.
Et parce qu'il peut être vaseux quand même, le merle, quoi.
Le merle, alors, sa structure fait qu'il a tenu vachement les courants de fond et les choses comme ça, donc c'est un endroit qui sédimente. Donc, quand il commence à s'accumuler sur le fond, il est immédiatement associé à des particules fines. Ouais.
D'accord. Donc, on le voit pas forcément, il peut être caché. Non, quand même pas.
Non, on le voit
toujours. Oui. On voit toujours du rose. C'est assez joli, d'ailleurs, si j'ai en mémoire les photos.
Oui, c'est beau, il y a des belles photos. Ouais.
Ça fait un beau tapis.
Oui, ça fait un environnement assez particulier. Alors, en France, c'est pas tellement le cas, mais en Angleterre, il y a des plongées qui sont organisées payantes que pour aller voir du merle. Il y a des gens qui viennent de partout pour ça.
À quel endroit de la côte
À Falmouth, dans la baie de Falmouth, qui est vraiment très très proche de ce que peut être la rade de Brest.
Bon, on ira explorer ça parce qu'on a une correspondante là-bas.
Ah bah voilà.
Alors, qu'est-ce qui menace, alors à part cette exploitation, qu'est-ce qui menace éventuellement le merle et quel est son état? Parce qu'en fait, est-ce que...
Donc il y avait beaucoup d'exploitations qui menaçaient. Alors là, pour le coup, le merle totalement. Il y avait des centaines de milliers de tonnes qui étaient extraites tous les ans, hein, juste avant que ça s'arrête. Et puis là, aujourd'hui, c'est plutôt les interactions entre les dragues et les dragues de la pêche à la praire et puis cet habitat qui est quand même assez fragile. Quoi.
Ah oui, parce que donc on pêche la praire en rade de Brest encore.
Oui, on pêche la praire en rade de Brest. Oui.
Et comment se présente l'engin
C'est une petite drague avec des dents assez longues et assez pas très écartées, mais les dents font peut-être, je vais pas dire de bêtises, mais entre 5 et 10 cm de long. Et le principe, c'est qu'il faut essayer de retirer la couche de merle vivant parce qu'elles poussent en dessous ça. Et après, réussir à capter, à sortir les praires du sédiment. Donc l'idée, c'est de remplir cette drague-là, elle est remplie de merles et de vases, et de praires, et de tous les organismes que la drague a attrapé sur le fond, et puis de la secouer en surface, histoire d'éliminer tout ce qui est merle, vase, et puis sable, et ne conserver dedans que les praires.
Et
ça, c'est fortement dommageable pour l'habitat.
Et on a le droit quand même de le faire en rade de Brest.
Oui.
Ce merle, une fois qu'il a été arraché, en fait, il est mort. Enfin, qu'est-ce qui lui arrive?
Alors, il y est souvent brisé et puis il se retrouve recouvert de particules fines, de vases et tout ça qui se dépose après, forcément, parce que il y a un gros nuage de vases qui reste autour de la zone. Donc, il a plus accès à la lumière et du coup, il va mourir à ce moment-là, quoi. Comme toutes les plantes, les macroalgues ont besoin les algues ont besoin de lumière pour vivre.
Et oui, et il y a des endroits quand même en rade de Brest où on sait que le merle est complètement protégé ou on...
Protégé totalement. Non, il y a des. On s'est entendu quand même. Enfin, il y a des. Les pêcheurs se sont entendus avec le parc d'Armorique pour éviter de draguer certaines zones. Donc il y a des zones où aujourd'hui il n'y a pas de drague qui ont accès.
Et vous, en tant que scientifique, vous vous dites, si le merle est trop attaqué en rade de Brest, est-ce qu'il peut disparaître ou qu'est-ce qui va se produire?
Alors, disparaître, il faudrait encore dépenser beaucoup d'énergie, je ne pense pas que ça soit le cas. Mais par contre, le problème que ça pose, c'est un problème pour la biodiversité. Et puis pour aussi les rôles que joue cet habitat-là dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers. Donc j'ai parlé tout à l'heure de jeunes coquillages, de jeunes praires, de jeunes poissons. Donc il a un rôle à jouer comme ça, de nurserie, on appelle ça. Hein, donc de protéger les toutes petites, les espèces quand elles sont toutes petites, qu'elles soient à l'abri de leurs prédateurs. Et après, elles vont migrer vers d'autres habitats. Ça, c'est une chose. Et puis, aujourd'hui, on travaille aussi sur la qualité de l'eau en rade de Brest et les liens qu'il peut avoir avec, avec les bancs de merles. Parce que les bancs de merles sont les hôtes aussi de beaucoup d'espèces, et en particulier des éponges. Et les éponges qui, elles, abritent, enfin, en tout cas, elles sont dans leur structure, ce qu'on appelle des spicules, qui sont formées par de la silice. Mmh. Et la silice, c'est l'assurance d'avoir du phytoplancton plutôt de qualité. Donc pas du phytoplancton toxique qui se développe plutôt en l'absence de silice. Et donc là, voilà, on est en train de travailler aujourd'hui sur le stock. Le plus gros stock de silice dans la rade de Brest, il se trouve dans le merle. Il se trouve dans les éponges qui sont dans le merle. Quand on drague sur le merle, on abîme en priorité les éponges qui sont des organismes extrêmement fragiles. Et donc voilà, ce stock de silice-là disparaît. Et donc on a l'idée que ça peut poser des problèmes de bloom toxique, et qui dit bloom toxique dit interdiction de la pêche à la coquille Saint-Jacques.
Bref, oui. Voilà. Parce que c'est pas les mêmes qui pêchent la praire et la coquille Saint-Jacques, c'est ça?
Ce sont les mêmes personnes qui font ça. Donc, par contre, je pense que quand il y a de la coquille Saint-Jacques, ils se tournent plutôt vers la coquille Saint-Jacques.
Mais il y en a pratiquement plus en rade de Brest, de toute façon.
Mais c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais il y a quand même une écloserie qui permet de maintenir une pêcherie. Mais qui parfois est fermée, cette pêcherie, quand il y a des blooms toxiques et qu'il y a des toxines dans la coquille Saint-Jacques. Voilà. Et là, les pêcheurs n'ont d'autre choix que de se tourner vers la praire, parce qu'il y a eu aussi dans le passé de l'huître plate, et puis il y a eu aussi des pétoncles noirs qui ont disparu. En tout cas, qui sont très très rares aujourd'hui.
Et donc, on a déjà fait une émission là-dessus, ouais. Ouais. Mais en fait, si on attaque le merle, finalement, on favorise un phytoplancton toxique, on va dire. Enfin, c'est ça, en gros.
Et c'est caricatural, mais c'est un peu ça. Oui, simplifier, c'est ça.
Paradoxalement, on nuit aux coquillages, parce que la praire, j'imagine qu'elle est aussi parfois interdite pour des raisons de toxines.
Non, la praire a tendance à détoxifier bien plus vite que la coquille Saint-Jacques. Donc, elle n'a pas forcément se nourrir sur la même nourriture. Donc en tout cas, il me semble pas avoir entendu. Peut-être hein, dans les premiers jours quand les blooms sont très forts, oui. Et puis après, quand les concentrations diminuent. Le problème de la coquille Saint-Jacques, c'est qu'elle va garder cette toxine en elle pendant très longtemps.
Et puis ces blooms, ils sont aussi, j'imagine, qui réduisent la pêche à pied sans doute, mais aussi la baignade peut-être, non? Il y a d'autres impacts, non?
Ouais, non, ça, il y a pas trop. Mais par contre, c'est une histoire de fonctionnement. Hein, donc du coup, oui, les autres baignades, c'est pas les mêmes...
C'est pas les mêmes espèces.
Non, le gros problème, c'est plutôt ça, hein, d'avoir un écosystème plutôt qui fonctionne bien en termes de qualité du phytoplancton et puis de tout ce qui va avec après, peut-être, y compris de la coquille Saint-Jacques ou de l'huître. Voilà.
Et les stocks de praire, ils se portent comment en rade de Brest, juste?
Alors, les stocks de praire, je pense qu'ils vont pas si mal, parce que c'est pas une espèce qui est très sensible, elle a pas besoin d'un banc de merle en très grosse forme pour se développer. Ceci dit, je ne peux pas me prononcer sur le stock de praire. Là, la pêche vient de se terminer, donc je ne sais pas.
Ah oui, il y a une saison, c'est de quand à quand la saison?
Ben, ça fait, grosso modo, le mois d'octobre jusqu'au mois de mars.
Et le merle, il a une saison aussi de développement?
Il a tendance à croître plus rapidement en hiver qu'en été.
Pas de chance. Ça tombe en plein dans la pêche de la praire.
Bon. Et voilà, parce qu'en fait, il souffre de photo-inhibition. S'il y a trop de lumière, il peut pas pousser.
Ah, voilà. Oui. Il y a des plantes.
Et puis, de toute façon, l'été, il se trouve en compétition avec d'autres algues qui poussent dessus.
Oui.
Donc, il a peu accès à la lumière aussi.
Et il y aurait d'autres méthodes pour pêcher de la praire sans atteindre le merle?
Alors, c'est compliqué quand même, je pense. D'autres méthodes pour pêcher la coquille Saint-Jacques que la drague? Oui, ça, il y a des gens qui le font. Voilà, en plongée, hein. La praire, il faudrait vraiment s'y intéresser de près pour voir si on peut repérer les animaux avant de creuser, quoi. Si on peut les prendre comme certains savent pêcher la palourde à la cuillère, ben voilà. Peut-être que ce serait possible, mais il faut quelqu'un avec un œil avisé.
Vous, quand vous étudiez les bancs de merle, comment est-ce que vous faites? Vous descendez avec votre scaphandre
et... Ouais, voilà, on envoie des plongeurs régulièrement. Et on a aussi des carottiers qu'on peut déployer à partir de bateaux. Donc, en gros, voilà, on a aussi des méthodes qui sont plus douces, comme l'imagerie, quoi. On fait des photos. On fait d'avoir... une référence de la surface que l'on voit, et puis on peut là-dessus identifier un peu l'état de santé du merle et puis les espèces qui sont associées.
Et vous-même, Jacques Gral, vous plongez encore ou...
ouais. Ah oui, ouais, mais pas beaucoup. Moi, non, on a des plongeurs professionnels au laboratoire, c'est le métier. Ils font ça mieux que moi.
Et donc, ce Merle de la Rade de Brest, vous le regardez depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous avez vu
Eh bien, ça dépend.
En termes d'évolution, hein.
Oui, en termes d'évolution. Ben, on a vu une dégradation, en fait, parce que le problème de ces histoires de toxines dans la coquille Saint-Jacques, ça commence en 2004. Et c'est à partir de là qu'on voit se dégrader en fait la santé du banc de merle dans le bassin sud de la rade de Brest. Donc voilà, c'est plutôt une dégradation de ce côté-là, due à ça. Et puis à l'inverse, hein, dans le nord de la rade de Brest, hein, sur le banc de Keraliou, là, il y avait dans les années 90 pas mal de pollution qui venait de la ville. Suite au contrat de baie de rade de Brest, il y a eu un gros effort fait par la ville de Brest pour assainir ses réseaux et que les réseaux d'eau usée et d'eau noire soient pas associés aux réseaux de pluie. Et donc il y a eu beaucoup moins d'effluents urbains vers le nord de la rade de Brest. Et ça a fortement amélioré la qualité de ce banc de merle-là. Celui-là, il va beaucoup mieux aujourd'hui.
Donc le merle dépend, la santé du merle dépend aussi d'autres facteurs que la pêche ou les...
Oui, bien sûr, elle peut dépendre des effluents urbains, en particulier de ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire de tout ce qui peut arriver comme sel nutritif à la fois de la ville, enfin des zones urbaines et puis des zones agricoles.
Ben oui, donc s'il y a trop de, je sais pas,
nitrate et phosphate, voilà, exactement. Et là, il y a des développements d'autres algues sur le merle, là, et ces algues-là, elles ont des telles biomasse, de telles densités qu'elles vont étouffer le merle.
Oui, pas... Ouais, d'accord.
Elles vont le séparer, en fait, de l'oxygène.
C'est un problème de concurrence, là, en fait.
Oui, c'est un problème de compétition, ouais.
Et d'autres facteurs, parce que bon, on parle tout le temps de changement climatique, est-ce que là-dessus, vous avez des données?
Oui, il y a eu deux thèses qui ont été réalisées par la station biologique de Roscoff, en rade de Brest, là-dessus, dédiées à ce sujet-là. Avec des expérimentations en bac où on faisait varier la température et puis le CO2. Le gros problème du merle, c'est que c'est un organisme calcaire, c'est plutôt l'acidité de l'eau, de l'océan qui va lui poser problème. Et bon, il a été démontré que oui, effectivement, ça peut lui poser des gros problèmes à l'arrivée. Donc voilà, il y a déjà sous pression des dragues, potentiellement sous pression aussi des effluents terrestres, et on va rajouter une nouvelle pression, hein, celle de l'acidification des océans.
Et la rade de Brest, elle s'acidifie particulièrement ou pas spécialement?
Non, enfin, pas spécialement, c'est pas pire que pire qu'ailleurs. Non, en l'occurrence, je sais pas trop. Alors, c'est quelque chose de compliqué à mesurer, par exemple, parce que, en tout cas, à mesurer au-dessus du merle, parce que le merle, lui, est en calcaire. Si ça acidifie, immédiatement, il va tamponner cette acidification.
Qu'est-ce que ça veut dire, tamponner?
Faire remonter le pH. C'est-à-dire, si vous avez déjà mis de la craie dans de l'acide, vous avez ça bulle.
Oui.
En fait, c'est la réaction du calcaire à l'attaque par l'acide. Là, c'est la même chose qui se passe.
Donc, ce qu'il faut voir sur le long terme, c'est s'il y a moins de merle qui est produit. Enfin,
Mais bon, ça, c'est pas des choses qu'on verra ni vous ni moi, je pense.
Pas tout de suite. Ah ouais. Oui,
ça va aller plus doucement que le réchauffement climatique, peut-être. Enfin, je sais pas.
On verra bien.
On verra bien.
Et le fait que la rade de Brest soit un milieu quand même assez fermé, ça peut être un problème pour le merle ou ça peut être un avantage?
En l'occurrence, c'est un avantage pour sa biodiversité associée, puis pour l'étendue de ses bancs. Hein. Si c'était ouvert, il aurait tendance à être balayé par la houle et il pourrait se retrouver. Alors, si ça s'ouvre brusquement, là, ils vont disparaître, les bancs de merle. Après, ils pourront peut-être se réfugier à l'abri de certains cailloux. Hein, mais voilà, donc là, c'est plutôt un avantage, en tout cas, pour sa biodiversité. Il y en a un autre qui est riche comme ça, c'est le banc de merle de la baie de Morlaix, qui est un peu la même configuration.
Le merle dans le monde, donc vous disiez, il y en a partout dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres bancs de merle que vous connaissez particulièrement et sur lesquels il y a des problèmes plus spécifiques, mais très différents de la rade de Brest?
Alors, il y en a d'autres ailleurs. Hein, donc peut-être ceux qui sont les plus au sud auront le plus de problèmes d'acidification rapidement. Il y en a d'autres qui sont effectivement aussi sous l'influence des effluents urbains dans des zones, j'en ai vu à La Réunion, qui étaient vraiment envahies par des algues vertes. Mais en grosso modo, et puis il y en a d'autres qui sont toujours exploités, hein, au Brésil, en Islande, désormais en Norvège. Donc voilà. Et puis il y en a d'autres, oui, qui sont aussi sous des cultures de saumon en Norvège. Et là, on peut voir que ça fait des gros dégâts aussi,
oui. Ah oui, comment ça?
Et ben, en fait, il y a tout ce qui est toute la bouffe qui est pas, enfin, tout ce qui est pas mangé par les saumons.
Plus leur déjection, j'imagine.
Plus leur déjection, ouais. Avec qui vont s'accumuler dans le merle et
l'étouffer, voilà, encore.
L'étouffer. Ouais. Voilà.
Donc la plus grosse menace pour le merle, c'est l'étouffement, en fait.
Ouais, c'est
finalement, c'est ça.
C'est ça, ouais. Pour le merle et ses fonctions. Ouais.
Et toute la biodiversité associée.
Et donc,
donc une ou deux espèces qui dépendent complètement du merle, vous pourriez nous citer
Il y en a une en Rade de Brest qui s'appelle Aesionae panthérina, qui est méchère. C'est un petit ver qui peut faire près de 10 cm et qui est en limite nord, hein, dans la Rade de Brest, et qui ne se trouve que dans ces bancs-là, qui est très joli.
Ah oui, quelle couleur?
Rouge et panthérina, ça veut pas, il a des taches blanches.
Ah oui, c'est ça.
Voilà.
Bon, eh bien, merci Jacques Graal de nous avoir emmenés dans ces bancs de merle de la Rade de Brest, où d'ailleurs, on en reparlera sans doute, hein, sur Radio Évasion. Mais en attendant, on peut réécouter cette émission sur le site internet de Radio Évasion. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.